Bonjour à tous. Comment le jeu associé à des techniques immersives permet-il de transmettre des connaissances? Fabrice Jouvenot, designer et producteur d'expériences interactives, nous apporte des éléments de réponse dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Très bonne écoute. Bonjour Fabrice Jouvenot. Alors pour commencer, peux-tu nous présenter ton parcours?
Ça commence bien. Tu veux mon parcours plutôt universitaire ou professionnel, ou les deux? Je vais faire peut-être un peu des deux. Je suis une bête un peu étrange entre art et sciences. J'ai fait les beaux-arts et après j'ai fait de la recherche en physique. Pendant un moment, ce qui m'a poussé à travailler dans les musées. Donc j'ai fait ce que moi je considère une longue carrière. Je suis à peu près un peu plus de 10 ans dans les musées à travers un certain nombre de formes différentes, donc l'événementiel, le spectacle, la médiation scientifique, la création d'expositions, la conception de produits technologiques, numériques, multimédia, etc. et audiovisuels en France et en Angleterre. Et en parallèle de ça, ça venait de mon envie de pouvoir faire de la communication scientifique autrement que les méthodes que je connaissais auparavant. Et en parallèle de ça, j'ai construit des festivals et je me suis intéressé énormément à tout ce qui est nouvelles technologies et jeux, d'où ma présence ici.
Le sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui concerne la transmission de connaissances grâce à des techniques immersives et aux jeux. Alors tout d'abord, qu'est-ce que sont ces techniques immersives?
Alors, le mot technique, enfin l'expression technique immersive est galvaudée selon les milieux avec lesquels on discute. Comme je suis passé sur de nombreux parcours différents, le vocabulaire n'est pas le même et le point de vue est à chaque fois très différent. Le mot immersif pour plein de gens, c'est dès qu'on met en gros une atmosphère, une scénographie, une mise en place. Typiquement en muséo, le mot immersif est souvent vu comme quelque chose d'un peu marginalisé pour les musées un peu classiques et bien vu pour les musées plus classiques. Mais en gros, l'idée, c'est de sortir le public, quel qu'il soit, que ce soit un joueur ou un spectateur, du contexte dans lequel il est, pour essayer de le mettre dans un autre contexte imaginaire ou réel. D'ailleurs, on peut se rapprocher de l'assimilation ou se rapprocher de la narration fictive ou du jeu. Donc tout ce qu'on appelle technique immersive, c'est tous les moyens de pouvoir faire ça. Et la plupart des gens, lorsqu'on parle de ça, vont d'abord penser aux techniques numériques, tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, vidéoprojection avec du mapping, etc. Tous ceux qui viennent plutôt du théâtre ou de l'audiovisuel vont plutôt penser à du décor de cinéma, du diorama ou de ce type-là. Mais en tout cas, il y a un des points, moi, on va l'aborder tout le long de la discussion, je pense. Un des points pour moi qui est important, c'est de ne pas se concentrer sur la technologie ou la manière de plonger quelqu'un de manière immersive dans un lieu ou dans une histoire, mais plutôt ce qu'on veut transmettre et ensuite laisser la technologie parler si elle a besoin de parler. Et je vais rajouter une autre chose sur le côté immersif tant que j'y suis. La plupart des temps, les gens pensent d'abord au visuel, puis ensuite au mouvement au sein d'un lieu. Il ne faut pas négliger évidemment tout ce qui est atmosphère sonore, olfactive, humaine, interactive, etc.
Alors comment en es-tu venu à t'intéresser au jeu d'une part, aux techniques immersives d'autre part et surtout à l'alliance des deux?
Le jeu, c'est une grande passion depuis toujours. Je fabriquais déjà des jeux quand j'étais gamin, donc je suis tombé dedans très très tôt. Et le jeu sous toutes ses formes, c'est-à-dire que je fais du jeu de plateau, je fais du jeu de rôle garde la nature, du jeu vidéo, enfin toutes ses formes, de l'escape room, de la chasse au trésor, etc. Ça, c'est une partie, donc la partie ludique, je suis à la fois que client, en tout cas joueur d'une part, et créateur d'autre part. Et tout ce qui est immersif, c'est l'envie de raconter une histoire et de plonger des gens dans un univers autre. Et notamment, la raison pour laquelle je m'y suis intéressé de manière professionnelle, c'est l'envie de pouvoir accompagner des personnes et de les faire sortir de leur quotidien d'une certaine manière. Typiquement, je reviens sur le muséo. On s'écartera certainement de la muséo après, mais ça a forgé beaucoup de points chez moi. La muséo, c'est du public, ce qu'on appelle nous le grand public. Donc en gros, c'est parents-enfants, parents-grands-parents et scolaires. C'est la majorité du public muséal. ils viennent dans un musée à plusieurs pour avoir une expérience qu'ils ne pourraient pas avoir chez eux. S'ils peuvent avoir une expérience sur leur écran, sur leur télé, sur leur téléphone ou avec quelques amis autour d'une table, il n'y a pas de raison de venir au musée. Il faut qu'on leur apporte quelque chose de différent. Et une des méthodes de faire ça, pour faire ça, c'est de réussir à même leur offrir une expérience utilisateur qui sera absolument unique à partir du moment où ils rentrent dans un espace donné, donc que ce soit carrément tout le musée ou juste un sous-espace. Et un des points, moi, qui me travaille beaucoup, c'est le, on va y revenir après, c'est l'interaction humaine, mais également le, j'ai perdu mes mots. L'espace muséal, je voulais parler de l'interaction. Oui, c'est ça. Un des points qui est important pour moi, donc c'est à la fois l'interaction humaine, mais aussi l'effet de sortir d'un phénomène qui est récent pour tout ce qui est interaction grand public, transmission de connaissances, pédagogie, enseignants, etc., qui est l'écran. C'est récent pour ça, mais si on regarde, il y a énormément de propagation de connaissances à travers un écran, même lorsqu'il y a une classe entière ou un groupe entier. Et l'idée, c'est de pouvoir sortir de cet écran pour pouvoir offrir autre chose. Et s'il y a de la technologie, elle est cachée derrière. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis venu à m'intéresser à ça. Ça veut dire raconter des histoires, amener des émotions, amener une narration et une interaction qui va être totalement différente du quotidien. Je vais même rajouter un autre point sur les jeux dits hybrides. Beaucoup de jeux hybrides, c'est l'idée de mélanger deux technologies ensemble. Par exemple un jeu de plateau avec un smartphone, pour prendre un truc classique. Ça ne fonctionne, c'est pareil pour les techniques immersives, qu'à partir du moment où on arrive à faire quelque chose, une alliance des différentes composantes qui sont là, qui sublime chacune des différentes parts. Alors j'enfonce des portes ouvertes, la plupart des gens sont d'accord avec ça, mais c'est pas toujours le cas quand on va observer ce qu'il y a sur le marché à l'heure actuelle.
Ouais, ma prochaine question c'était effectivement sur les avantages de combiner du jeu et une technique immersive, surtout dans le but de transmettre des connaissances. Donc tu as parlé de faire sortir les personnes de leur quotidien. En quoi est-ce que ça permet de faciliter la transmission de connaissances, l'alliance des deux ?
L'alliance des différentes techniques, et notamment quand on parle d'immersivité, donc ça veut dire se plonger quelque part, il y a en gros trois points qui pour moi sont assez capitales pour ça. Le premier c'est l'interaction, donc ça c'est le jeu. Ça veut dire qu'on va demander aux gens d'agir et de pas être simplement spectateur. Alors on peut trouver des environnements immersifs où c'est seulement contemplatif et poétique même. Mais si on a un jeu de mie, ça veut dire que tu engages chaque personne à faire quelque chose, voire à interagir avec les autres, donc à faire de l'échange. Et donc pour tout ce qui est fixation de connaissances, vu que tu t'es engagé toi-même, c'est toujours plus parlant et en tout cas ça cognitivement ça se fixe plus facilement dans l'esprit. Le deuxième point, c'est le mouvement. C'est souvent des endroits où on va se déplacer, où on va bouger avec ses bras, où on va pouvoir interagir d'une manière ou d'une autre. L'implication du corps au sein d'une activité, et si elle est pédagogique et donc il y a un contenu qui est derrière, permet de fixer les connaissances de manière différente, typiquement parce que ça vient susciter d'autres parties du cerveau qui sont mises en action, et donc susciter d'autres parties de la mémoire, et donc réussir à mémoriser plus facilement votre cours d'histoire si on a envie d'apprendre un cours d'histoire en bougeant avec les bras. Alors faut pas le faire de manière ridicule, mais si c'est inséré à l'intérieur de l'activité, ça fonctionne très bien. Et la dernière, c'est, je parlais de narration et je vais encore beaucoup en parler parce que c'est un de mes chevaux de bataille. Rentrer dans une histoire, ça veut dire mettre le doigt dans un engrenage pour savoir ce qu'on veut à la fin. Et c'est surtout transmettre des émotions. Et de la même manière, les neuropsychologues, sur, en termes de capacité cognitive humaine, les émotions positives permettent de pouvoir fixer les connaissances. Si vous avez une expérience qui est positive, vous allez garder plus facilement qu'une expérience négative. Alors, je ne parle pas jusqu'au traumatisme, évidemment, mais quelque chose qui est juste où vous avez perdu, vous n'avez pas passé un moment très agréable, vous allez plutôt l'effacer, alors que si vous avez passé un bon moment, vous allez le retenir plus facilement. Donc l'alliance des trois se combine très bien au niveau des donc ce qu'on appelle technique immersive, et donc du coup nous permet de pouvoir faire une transmission de connaissances, parce qu'il faut pas oublier que le cœur du sujet là, c'est de réussir à travers une activité, donc à travers un jeu, à ce qu'on ait appris quelque chose à la fin.
Alors, est-ce que peut-être tu peux détailler un petit peu plus les deux premiers, l'interaction et le mouvement. Qu'est-ce que tu mets derrière interaction ? C'est l'interaction avec quoi ?
Alors, quand je parle d'interaction, c'est un léger abus de langage de ma part. En gros, c'est tout ce qui est lié au gameplay sous les deux formes, enfin sur deux tendances différentes. La première, c'est le gameplay global qui est, si on n'est pas tout seul, on va avoir des interactions avec les personnes qui sont autour. Donc ça peut être en compétition, ça peut être en collaboratif, en compétitif, on peut trouver plein de manières différentes, il peut y avoir un gagnant, un seul perdant, peu importe, mais en tout cas c'est toute cette mécanique-là qui permet de pouvoir faire en sorte que mon expérience personnelle a de l'impact sur l'expérience personnelle des autres. Et la deuxième type d'interaction, c'est le choix. Et ça, c'est capital. Donc ça, c'est souvent au sein même du gameplay. C'est qu'à un moment donné, on va me demander de faire un choix. Ça rentre sur la grande question débattue des tonnes de fois au niveau du jeu, qui est: est-ce que le jeu de loi est un jeu? Puisque que ce soit un ordinateur ou moi qui lance le dé, il n'y a aucun choix. Donc est-ce que ça rentre dans la catégorie du jeu? C'est pas un débat qu'on peut avoir, enfin que je vais avoir ici maintenant. Mais en tout cas, si tu as un choix, c'est sûr, c'est un jeu. Dans ce cadre-là. Et donc, du coup, ça t'oblige, toi, à t'impliquer et donc, du coup, à pouvoir te glisser doucement vers l'aventure que t'es en train de développer, quoi. Donc, ça, c'est pour la partie interaction. Et la deuxième, tu me disais la partie mouvement et immersion, c'est ça ?
Non, c'est plus clair. J'étais pas sûr de bien comprendre la différence entre l'interaction et le mouvement. Donc, l'interaction, c'est vraiment l'interaction avec... Enfin, vraiment, avec les autres joueurs, éventuellement. Et le mouvement, c'est toi-même qui est amené à te déplacer physiquement. Enfin, ça demande un effort physique, en fait, dans l'expérience que tu es en train de vivre.
Absolument, c'est exactement ça.
Ok, c'est clair. Alors, en préparant un petit peu le sujet, je me posais la question quelle était la différence par rapport à une simulation ? Parce qu'on voit souvent des gens avec des casques de réalité virtuelle qui font de la simulation d'une séance de travail, par exemple. C'est aussi un environnement immersif, mais quelles vont être les principales différences par rapport à... Est-ce que j'ai le droit de l'appeler jeu immersif ?
Oui, bien sûr.
Ouais, donc par rapport à un jeu immersif.
Alors ça, c'est un grand débat dans tous ceux qui font du serious game, en gros. Enfin, déjà, le mot serious game, il y a plein de méthodes différentes, où c'est plus ou moins galvaudé selon avec qui on discute, etc. Mais en tout cas, un jeu avec de la connaissance à la fin, il y a plein de discussions sur est-ce qu'une simulation fait partie de cette catégorie, et est-ce qu'on peut appeler ça un jeu. Lorsque vous faites un jeu de simulation des risques nucléaires ou des mouvements du cours de la bourse, est-ce qu'on peut encore considérer que c'est un jeu ? Ça revient aux questions de définition du jeu. Moi, j'aime beaucoup celle de Richard Garfield, qui est du coup pas un théoricien du jeu, mais qui est un créateur de jeux de longue date. Il a quatre éléments qu'il met en place pour définir ce qu'est un jeu. Non, il y a plein de modèles différents. Moi, j'aime bien celui-là, mais tous sont à discuter. La simulation, la raison pour laquelle la simulation ne rentre pas dedans, c'est que la simulation, c'est pour te préparer de manière concrète à une situation, que je parle en formation, à une situation à laquelle tu pourrais être confronté, de manière à ce que tes réflexes et ton apprentissage te permettent de pouvoir, sans risque, apprendre quelque chose qui pourrait se produire. Si tu fais de la simulation de cours de bourse et que t'es pas boursier, c'est pas ça, ça va juste te donner une sensation de qu'est-ce que c'est dans la réalité. Le jeu, lui, il est défini par un certain nombre de règles au départ. Ce qui fait un jeu, c'est qu'entre autres, qu'il y a des règles, et donc un cadre donné, et donc notamment un cercle magique dans lequel, en dehors, le monde de la vie existe. Et quand t'es dans ce cercle magique, cet univers-là, il est... c'est un univers fictif ou proche du réel, mais en tout cas qui n'est pas ta vie à toi. Et la simulation, souvent, ça se rapproche de la vie à soi, et surtout, c'est vraiment reproduire de manière mécanique ce qui se passerait. Et ça, c'est un des combats que moi j'ai eu de nombreuses reprises avec de nombreuses institutions, qui est lorsque tu veux transmettre un contenu selon ton public. Alors, si tu veux faire une formation pure et dure sur un ingénieur nucléaire qui doit gérer un état de crise, c'est bien qu'il soit formé exactement à ce qui va se passer. Mais si tu veux parler, je sais pas, d'un mouvement mathématique très particulier à des enfants au lycée ou au collège, leur parler de maths, ils vont faire un rejet direct, alors que tu peux l'emballer de manière différente et leur parler de zombies et d'extraterrestres et de dinosaures ou je ne sais quoi, mais l'emballer de telle manière et à ce que ton contenu soit toujours vrai et soit toujours réel, mais que leur appétence à ce niveau-là soit triggée de manière différente, quoi. En tout cas, excitée de manière différente. Et notamment, on le voit dans les jeux de plateau. Les jeux de plateau, il y a, il y a 30 ans sont absolument pas les mêmes que maintenant. Évidemment, il y a eu beaucoup d'évolutions au fur et à mesure des dizaines d'années. Mais plus que ça, il y a toute une clientèle de jeux de plateau qui vont acheter un jeu juste parce que l'univers graphique ou l'histoire que ça raconte leur plaît. Et pas parce que le gameplay est bon ou parce qu'ils vont vraiment s'amuser avec, mais parce que c'est leur porte d'entrée là-dessus. Donc on peut imaginer la même chose, c'est-à-dire utiliser ces mécaniques-là pour pouvoir toucher des joueurs qu'on ne toucherait pas autrement. Parce que quand on veut transmettre une connaissance, le gros problème, c'est que souvent, les gens sont pas toujours volontaires. Si c'est une classe ou une formation, ou si c'est des gens qui rentrent dans un espace public en se disant « tiens, ça va me plaire », ils peuvent repartir à tout moment. Donc il faut réussir à trouver des leviers pour réussir à accrocher ce public qu'on n'aurait pas eu autrement. C'est-à-dire, si c'est pour apprendre, justement je parlais de mathématiques, ou de génétique, c'est pour apprendre la génétique à des gens qui sont passionnés de génétique, pas de souci, ils vont prendre un bouquin, ils vont suivre un cours, ils vont avoir une formation, etc. Si c'est pour réussir à les accrocher, alors que les initiés voient leur apprendre des notions plus dures alors que c'est pas leur domaine de départ, voire qu'ils ont une certaine crainte là-dessus, eh bien il y a des moyens détournés, c'est un peu de la manipulation, mais à la fin c'est le après, on parlera du avant, pendant, après de des jeux, permet de pouvoir lever le voile et expliquer ce qu'on a fait de manière concrète, quoi. Ça répond à peu près à ce que tu voulais?
Ouais, merci, c'est complet. Selon toi, y a-t-il des cas dans lesquels on devrait éviter d'utiliser des jeux immersifs pour transmettre des connaissances toujours?
Il y a plein de cas où il n'y a pas besoin d'utiliser de techniques immersives, mais alors des cohortes. Et c'est un des points principaux de tout projet de ce type-là qui est face à un public donné qu'on ne maîtrise pas. C'est de bien se concentrer sur qu'est-ce qu'on veut transmettre et à qui on veut le transmettre. Et il y a des nombreux cas où il faut pas utiliser de technique immersive du tout, et même plus que ça, il faut pas utiliser de jeu, il faut parfois un poster est plus efficace. Et surtout, il faut se battre contre le phénomène de mode qui est les escape rooms, ça marche bien en ce moment, tout le monde en fait, donc on va en faire, parce que ça va nous attirer du public. Ou alors, on va utiliser un casque de réalité virtuelle, parce que tout le monde n'en a pas chez soi pour l'instant, donc on va fabriquer un casque de réalité virtuelle pour communiquer auprès des lycéens, des universitaires, parce que ça va leur apprendre tel ou tel domaine. Donc ça, ça veut dire que c'est une entrée par la technologie, ou par le mouvement actuel, le trend qu'on peut avoir dans la société. Pour moi, c'est un très mauvais, très mauvaise case d'entrée, parce qu'on s'appuie sur le fait que c'est l'activité qui leur plaît pour pouvoir leur donner quelque chose, au lieu de s'appuyer sur l'expérience qu'ils vont vivre et qui vont leur apporter quelque chose. Si on veut apporter une expérience pour apprendre l'histoire des rois de France, un bon film, parfois, c'est plus efficace qu'une escape room, selon ce qu'on veut faire passer. Et ça dépend du public. Les escape rooms, ça marche pas sur tout le monde non plus, etc. Donc, il y a vraiment des tonnes de cas que je peux pas lister. C'est une réponse un peu facile que je fais, mais je peux surtout pas dire oui, ça s'applique partout.
Ouais, du coup, ma question suivante, elle est peut-être un petit peu liée à celle que je viens de te poser. C'est si, du coup, il y a des techniques immersives qui sont plus adaptées que d'autres en fonction du public ou des objectifs d'apprentissage.
Bah oui. En fait, là, on parle de technique immersive sur ce podcast, mais en réalité, là, à peu près tout ce que je raconte avant marche sur la plupart des jeux à contenu, pas forcément immersif. Et notamment, évidemment, il y en a qui marchent mieux que d'autres, mais souvent, il faut reprendre les sources pour lesquelles ça fonctionne. Typiquement, pourquoi un escape room fonctionne ? Ça fonctionne parce que pendant un temps donné, un espace donné et des ressources données, donc matérielles et humaines qu'il y a à l'intérieur, les gens vont vivre une expérience ensemble. Ça pourrait ne pas être une escape room, ça pourrait être autre chose, ça fonctionnerait très bien. C'est pas forcément des mécaniques de sortir de la pièce, pas forcément des mécaniques d'énigmes, ça pourrait être des mécaniques qui sont plus proches du jeu de rôle grandeur nature, par exemple, qui fonctionneraient très bien potentiellement, ou des expériences interactives, numériques, plus artistiques ou autres. Donc en gros, c'est se demander pourquoi ce truc fonctionne par rapport au public qu'on veut toucher. Et notamment, il faut se méfier du décalage qu'il y a parfois entre le public, le contenu et la technologie. J'ai un exemple que je donnerai à la fin qui était sur l'exposition épidémique à la Cité des Sciences il y a une dizaine d'années, qui a très bien marché et très mal marché. J'en parlerai vraiment à la toute fin, mais qui est un bon exemple de ce grand écart qui est pas toujours facile par rapport aux différentes typologies de public qu'on peut avoir.
Alors, comment procèdes-tu pour créer un jeu immersif?
Alors, moi, j'ai une méthode que j'utilise pour tous les jeux sérieux, et après, je rajoute la partie immersive, donc je vais y venir. Donc, tous les gameplays, moi, que je, enfin, tous les gameplays, tous les jeux que j'ai développés sont basés sur une pierre angulaire qui est vraiment le tout début, qui est ce que j'appelle le pré-design. Donc, en gros, tu as ton idée de départ, le pré-design, le design, la pré-prod, la prod, puis après l'exploitation et tout ce que et tous les retours après, les feedbacks que tu peux avoir sur ce qui marche pas. Et tout au long, évidemment, tu fais des tonnes de tests. Donc, premier truc, d'ailleurs, j'allais peut-être l'oublier, mais c'est faire des tests à chaque étape de tout le temps. La luminosité, la couleur, la taille d'un texte, etc. Je suis un maniaque du test et je pense que c'est indispensable. Et donc, du coup, au moment du pré-design, parce que c'est ce qui va définir toute la suite, moi, j'utilise un truc que j'appelle la méthode de décorrélation. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre de critères qui sont indépendants au départ. Donc je vais te les dire, il y en a cinq. Chaque critère est indépendant, ça veut dire que, et je l'ai déjà fait des tonnes de fois avec des étudiants, tu demandes à des gens d'écrire sur des petits bouts de papier différents critères de ce type-là, tu tires au hasard, et j'ai toujours réussi à faire un jeu avec ce tirage aléatoire. Parce que souvent on est trop drivé en se disant, tiens, je connais bien mon public, et donc du coup, je vais faire ça parce que je sais que ça leur plaît, et je vais le faire comme ça. Alors il faut à une certaine étape, mais au départ, on peut le séparer. Et donc les cinq points, c'est le public. Avoir une bonne connaissance de à qui on veut s'adresser et pourquoi. C'est le cœur de cible, ça veut pas dire que ça marche pas pour des plus grands, plus petits, d'autres personnes, mais c'est important de savoir que si tu veux cibler les lycéens, ça va pas être la même chose que si tu veux cibler des seniors d'une certaine typologie, experts d'un domaine. Donc ça peut fonctionner sur différentes tranches d'âge ou différentes classes d'appétence, mais en tout cas bien connaître son public clé. Savoir de quel contenu on veut parler. Alors ça, c'est un des plus gros débats, c'est de pas tout mettre. Il faut que de quoi on veut parler et quel est le message qu'on veut faire passer. Il y a un exemple que j'ai pris de nombreuses fois, qui est la Tour Eiffel, parce que je trouve qu'elle marche bien. Si tu veux parler de la Tour Eiffel, tu as un parti pris à prendre. C'est pareil que si tu écris un livre ou si tu fais une exposition. Tu as un vrai parti pris qui est, est-ce que tu veux parler de sa construction, de l'architecture, est-ce que tu veux parler de l'homme, est-ce que tu veux parler de l'exposition universelle, comment ça a fonctionné, est-ce que tu veux parler du symbole qu'est la France ou comment c'est déployé, ou est-ce que tu veux parler un peu de tout, mais dans ce cas-là, tu veux simplement faire un étalage de... Ça a rayonné de plein de manières différentes au cours du temps. Donc avoir un contenu très précis et très clair qui est un point qu'on veut aborder. Après, ça peut diffuser un petit peu, mais il y en a un qui est celui qui est la ligne éditoriale en gros. Troisième point, c'est l'univers et qui est à la fois l'enrobage graphique. Quand je dis graphique, c'est visuel, sonore, etc. C'est tout ce qui va t'amener dans un monde particulier. Ça peut être ultra réaliste, ça peut être plutôt cartoon, ça peut être plein de manières différentes. Et surtout, quelle est la narration que tu vas raconter derrière? Qu'est-ce que tu racontes? Et donc du coup, quelle sera la place du joueur à l'intérieur de cette histoire? Pour moi, il faut toujours une histoire. Il y a plein de jeux qui marchent sans histoire, de jeux non immersifs. En immersif, c'est difficile de pas mettre une histoire pour pouvoir accrocher quelqu'un et l'amener. Le quatrième point, c'est, j'en l'ai évoqué avant, c'est tout ce qui est gameplay et interaction. Quel est l'enjeu du jeu? Quel est le type d'interaction on veut avec les différents joueurs? Est-ce que c'est tout seul? Est-ce que c'est à plusieurs? Dans ce cas-là, est-ce que c'est collaboratif? Est-ce que c'est par groupe? Est-ce que il n'y a qu'un seul gagnant? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul perdant? Je le déconseille, mais je connais un jeu comme ça qui est un peu dur. Quel est le type de gameplay qu'on veut? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir une part de hasard? Est-ce qu'il va y avoir une part de réflexion plus tactique? Est-ce que, enfin, il y a plein de manières de gameplay? Est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce que, etc. Et le dernier point. Donc ça, ces quatre-là, on peut prendre n'importe quoi, ça fonctionne. Mais faut le faire avec en bonne intelligence évidemment. Mais on peut faire l'exercice, ça fonctionne. Et le dernier point, c'est tout ce qui est donc du coup technologie. Et accessibilité sont mes contraintes. Il y a toujours des contraintes dues à une techno particulière et tu remarques que je mets la techno à la fin. C'est-à-dire que selon ce que je veux faire, ce sera peut-être en réalité virtuelle ou ce sera peut-être dans un beau décor de scénographie avec des acteurs. Mais en tout cas, ça viendra après m'être posé les questions précédentes. Et du coup, ça m'a apporté plein de contraintes particulières. Et l'autre, c'est l'accessibilité, qui est un truc auquel je suis plutôt sensible, notamment quand tu touches à du public vaste, qui va être l'accessibilité donc aux sourds, malentendants, aveugles et malvoyants, déficience physique ou mentale. Et sans oublier, parce que souvent on pense plus à tout type de handicap, mais il y a aussi toute l'accessibilité auprès d'un public qui est pas natif de la langue ou qui a une culture qui est différente et donc qui interprète les symboles ou ce qu'on lui présente de manière différente. Donc ça c'est vraiment le truc pour tout jeu, on va dire. Et ensuite, lorsque moi je veux, après ça, donc il faut voir ça de manière holistique. Au début c'est séparé, mais après il faut que tout se réponde de manière intelligente. Et notamment quand je parle d'approche holistique de ça, notamment sur l'immersif, c'est bien se poser la question de quelle est la place de l'utilisateur, donc du joueur ou du spectateur ou peu importe, à l'intérieur de cet emballage qui a été créé. Donc il va y avoir un avant. Il va rentrer dans l'expérience qui lui est offerte, il va en ressortir, et il est bon de se poser la question de quelle est sa place à l'intérieur de cette histoire. Et s'il a un objet technologique à la main, que ce soit un smartphone pour de la réalité augmentée sur écran par exemple, ou que ce soit un casque sur la tête ou autre, quelle est cette narration à l'intérieur de cette expérience. Le téléphone, ça peut devenir un détecteur de fantômes, un casque, ça peut devenir un appareil qui protège des voyages temporels, j'en sais rien. Mais du coup, c'est pas juste, tiens, on te met un casque de réalité virtuelle. Non, on te met quelque chose qui te permet de te transporter quelque part. Et donc, ça veut dire que la personne et le personnel qui est autour, s'il y a du personnel, évidemment, acteur ou facilitateur, médiateur ou autre, dans ce cas-là, ils ont un rôle à l'intérieur de cette histoire. Et donc, à partir du moment où tu rentres dans la phase du milieu, qui est l'expérience elle-même, au moment où tu rentres, au moment où t'en sors, l'ensemble est une histoire cohérente, en tout cas une expérience cohérente, même si c'est pas une histoire. J'insiste sur histoire, mais il y a plein de moyens de pas faire d'histoire. Il y a de la poésie, il y a plein de choses qui sont pas obligatoires, mais bon, le côté narratif est quand même relativement courant. Ça répond à peu près à ce que tu.
Oui, je vais peut-être juste revenir rapidement sur le fait que tu as dit que la technologie, c'est un choix que tu fais à la fin. C'est-à-dire que tu as déjà bien travaillé tout ce qui est public, contenu, univers et gameplay. À partir du moment où tout ça, excuse-moi, à partir du moment où tout ça c'est bien défini, c'est à ce moment-là que tu te poses la question de quelle est la technologie la plus appropriée pour répondre à ce qu'on a envie de faire vivre à l'utilisateur.
Oui, c'est exactement ça. Je me pose la question à la fin. Alors évidemment, c'est toujours un peu faux parce qu'on a des idées en tête quand on se lance dans quelque chose. Mais en tout cas, par exemple, si j'ai en tête que ça va être avec des HoloLens, par exemple, et donc des casques transparents de réalité augmentée, évidemment que j'ai ça en tête. Mais il faut l'éprouver pour se poser la question de « Et si j'en avais pas, est-ce que mon expérience fonctionnerait ?» Et si jamais j'ai absolument besoin de ça pour que ça fonctionne, ça veut dire que j'ai le bon outil. Si je peux m'en passer, c'est que mon outil n'est pas approprié parfaitement dessus. Donc, je me pose vraiment la question à la toute fin, ouais. Ouais, même si bon, c'est présent évidemment en tête. Quoi.
Alors, tu nous as parlé de temps en temps de l'entrée et de la sortie du jeu. Qu'est-ce qui se passe à ces deux moments un peu clés ?
Ça, c'est un des gros points de... C'est marrant parce que ça relie deux choses. Lorsqu'on fait de la pédagogie, sous plein de formes différentes, il y a souvent un avant pendant après. Pédagogie au sens large, que ce soit muséal ou en classe ou de formation ou de sensibilisation des masses à un phénomène, je sais pas, écologique ou autre. Tout ça, il y a toujours un avant pendant après. Le pendant étant l'expérience qu'on a créée pour, quoi. Et en immersion, c'est la même chose. Je vais d'abord commencer par l'immersion parce que typiquement un des beaux exemples immersifs qui existait donc il y a un peu plus d'un siècle maintenant, qui était ce qu'on appelait les panoramas, qui étaient des endroits où t'es dans la vie de tous les jours. Je sais pas, t'es en 1910, t'as ton chapeau de forme, ta cape et ta canne, t'es accompagné, t'es dans les rues, t'arrives devant ce panorama qui est un gros bâtiment avec juste une entrée un peu obscure. Tu rentres dans un tunnel et là le tunnel est complètement noir. Tu sors du quotidien, c'est important, tu sors du monde que tu connaissais, tu rentres dans un tunnel qui est complètement obscur pour arriver jusqu'à un petit escalier en colimaçon qui te fait arriver au milieu de la structure. Et au milieu de cette structure, l'éclairage, le diorama qui est mis en place, parce que les panoramas de l'époque c'était vraiment des dioramas avec de la reconstruction et de la peinture un peu partout au mur pour donner l'illusion de la profondeur, t'amène par ce sas de transition dans un autre univers. Et cette transition-là, elle est importante en immersif, et la sortie est importante également. La sortie est toujours difficile, souvent négligée pour plein de raisons, notamment de pure classique de gestion de projet, mais l'entrée et la sortie de ce genre d'expérience est pour moi capitale. Et je vous invite à aller regarder toutes sortes d'expériences qu'il y a à Paris ou même juste de rentrer dans un endroit, un parcours de visite muséal. Parfois l'entrée est chiadée, c'est pas toujours le cas. La sortie est généralement pas bonne. Tu ressors et malheureusement t'as pas un côté apothéose que tu peux avoir sur certains films ou donc sur certaines histoires. D'où l'importance pour moi de l'émotion et de l'histoire. En pédagogie, donc c'est pareil, il y a une préparation de ce qu'on veut au début, il y a l'activité elle-même pendant, et après il y a la fixation de connaissances. Et pour lier les deux, je vais me consacrer un petit peu plus au pendant et après, et on viendra au milieu si tu veux pour tout ce qui est médiateur, facilitateur, leur rôle à ce moment-là. Mais le avant, ça veut dire préparer les gens à un certain nombre de points. Ils vont sortir de leur réel pour ou de leur réel ou de leur expérience de vie classique pour rentrer dans une activité. Donc il faut qu'on leur donne les codes, les règles, qu'on les prépare à ce qui va se passer. Même s'il y a une surprise, il faut qu'on les prépare mentalement à cette surprise ou à ce qu'on peut faire ou pas faire. Dans une escape room, on te dit qu'il faut pas aller arracher les morceaux de décor. Dans certains endroits, on va te donner les règles de jeu et on va te dire que quand tu vas rentrer, le silence est important. Il y a un certain nombre de points, mais qui est du conditionnement de règles. Et il y a un deuxième conditionnement, qui est le conditionnement de groupe. Typiquement, quand tu as un groupe complet qui vient dans une activité, selon les milieux, ça peut être des gens qui se connaissent. En muséo, les gens qui viennent ensemble, ils viennent ensemble. On est rarement dans un musée tout seul. Il y a des cas, mais la majorité des gens, ils viennent accompagnés, donc c'est des gens qui connaissent et ça se passe bien. Mais lorsque tu es avec une classe ou avec donc une formation, ou le pire, je pense, c'est les formations pour adultes, où tu as plusieurs niveaux à l'intérieur, mais notamment parfois tu as un niveau hiérarchique. Tu peux avoir ton boss qui est avec toi. Et aller faire une escape room avec ton boss, c'est pas la même chose que d'être juste avec des collègues. Et donc, tu as un moyen de préparer, en gros, tu as tous les icebreakers qui existent. Il y a plein d'icebreakers de typologies différentes qui existent. Certains, c'est pour apprendre à se connaître, d'autres, c'est pour se sensibiliser à un certain sujet, etc. Et tu en as qui sont spécifiquement prévus pour pouvoir casser les niveaux hiérarchiques et dire, voilà, on est tous pareils, mais pendant l'activité qu'il va y avoir derrière, nos niveaux à nous, ils n'existent plus. On a été ridicule pendant 2 minutes avant à marcher par terre et à mimer un animal mécanique imaginaire. Lorsqu'après, on rentre dedans, si on a vu son boss comme ça, l'activité qui va suivre, elle va pas être la même. Donc ça, c'est vraiment super important, cette partie-là. Puis c'est le conditionnement cognitif également pour être sûr qu'ils soient sensibles à ce qu'on veut leur faire passer. Et enfin, le après, il est capital pour pouvoir fixer la connaissance qui va être... Alors, ce que je vais dire est abominable pour plein de gens qui bossent dans le même milieu que moi, mais la plupart des gens, moi, avec qui j'ai fait des jeux et que j'ai produit ou que j'ai fait tester et qu'à la fin, on demande aux personnes « Ok, est-ce que vous avez appris quelque chose ?» Alors, ils sont souvent gentils, ils vont te dire oui, mais il y en a énormément quand ils sont honnêtes ou quand ils se taisent, qui vont te dire « Non, mais en fait, j'ai rien appris. » Et c'est, alors, en tout cas, de mon expérience, ça a toujours été faux. Ils croient n'avoir rien appris parce que on va emballer le contenu d'une certaine manière, on va les mettre dans des rôles particuliers, si on se rapproche plus du jeu de rôle grandeur nature, on va les mettre dans des situations où ils vont adopter un chemin de pensée qui va être différent du leur, ou alors qu'ils vont se forcer, ou alors qu'on a enrobé quelque chose avec des bonbons et des animaux mignons, mais en réalité on parle de pollution sur Terre et de problèmes écologiques par exemple. Et lorsque on leur pose les questions après, non seulement ils sont capables de répondre aux questions et ils se rendent compte que finalement ils ont appris plein de choses, plein de notions, et notamment généralement sur les notions principales, les notions, donc mon message clé, ce que je disais au départ. Donc le message clé que je veux être sûr qu'ils apprennent, et ensuite il y a tout l'enrobage autour qui est, en plus, s'ils apprennent ça en plus, c'est bien, mais il faut se focus sur le message clé. Donc généralement, cela, il t'a pris, et en plus de ça, ça permet de pouvoir débriefer, de dire voilà, ce que vous avez vu, ben en fait, c'était pas ça, mais c'était ça. Parce que parfois c'est pas littéral. Quand c'est littéral, il n'y a pas besoin, évidemment, on peut en discuter selon les points de vue, mais c'est pouvoir reconditionner et du coup éventuellement ouvrir un débat et une discussion. Pour les sujets de sensibilisation, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est de faire cette activité pour qu'ensuite la discussion s'ouvre et que les gens se mettent à parler de eux, de leurs convictions, de témoignages ou autres. Et dans ce cas-là, les gens vont avoir un lien humain et plus un lien artificiel qu'on a créé avant. Et généralement, ça fonctionne bien. Donc le avant et après, je passais un peu de temps dessus, mais il est tellement capital que je ne peux pas le négliger.
Ok. Et du coup, tu nous as promis que tu nous parlerais un petit peu du rôle du formateur ou de l'animateur dans tout ça.
Donc il n'y a pas toujours quelqu'un avec. Il y a des jeux qu'on peut prendre chez soi sur un casque virtuel ou autre, mais il y a souvent un facilitateur et ça aide. Et donc ça rejoint le point que je disais avant de l'approche holistique de l'expérience elle-même. S'il y a quelqu'un, il faut qu'il ait un rôle à l'intérieur. Il faut qu'il ait un rôle dans l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'il ait un rôle actif. Parfois, c'est un rôle qui est purement technique, vérifier que tout va bien, et puis technique et de sécurité émotionnelle ou physique. Parfois, ça peut être le prof lui-même, etc. Mais il faut qu'il ait un rôle dans l'histoire. Et notamment, il faut qu'il ait un rôle qui, de mon expérience, c'est plutôt généralement des gens qui sont... ça peut être le serviteur, si on se retrouve dans quelque chose de victorien, on peut se dire, ben voilà, c'est le serviteur qui va t'amener tes petits fours et tes verres. Mais il est là. Et donc, du coup, il peut gérer, mais c'est pas l'homme qui est debout dans un coin, qui est organisateur et qui te regarde, parce que ça te donne un retour de regard qui ne permet pas de lâcher la bride et de se plonger pleinement. Si on a quelqu'un en train de te regarder, c'est typique de certaines, actions d'émotion en jeu de rôle grandeur nature. Si t'as quelqu'un avec une caméra à côté en train de regarder deux personnes en train de se faire une déclaration d'amour, c'est pas pareil que si elles sont toutes les deux en train de se déclarer leur flamme à la pleine lune, avec au loin un serviteur qui attend pour savoir si s'ils veulent un verre ou pas. Et cette immersion là, elle est vraiment vraiment capitale, et notamment en termes de connaissances. On a fait beaucoup d'expériences là-dessus, sur la personne qui est là souvent connaît les réponses et peut aider de plein de manières différentes, parce que le but c'est qu'à la fin il réussisse. Ça c'est un gros truc aussi sur le jeu, hein, je parle pas forcément juste sur l'expérience, mais sur le jeu pédagogique immersif, on veut qu'il réussisse à la fin. Ouais, cette phrase elle est un peu ambiguë, parce qu'il peut y avoir du try and error et donc échouer, recommencer, etc. Mais bon, en tout cas, à la fin, au final, on veut qu'ils aient réussi quelque chose. Et donc, du coup, l'apprenant ne doit pas se sentir qu'à côté, il y a quelqu'un qui a la connaissance. Et donc, souvent, passer pour l'idiot, celui qui est juste technicien, qui peut être maladroit, mais par sa maladresse, révéler quelque chose pour qu'on se pose la question et qu'il fasse avancer, ça aide beaucoup. Parce que sinon, tu te retournes vers la réponse et tu peux attendre, ça marche très. Ça c'est un des gros biais, par exemple quand t'as élève prof, c'est un grand classique.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples de jeux immersifs dont l'objectif est de transmettre des connaissances? Tu nous as parlé au tout début d'un exemple sur une exposition épidémique, c'est ça?
Oui. Ouais, je vais vous donner quelques exemples qui m'ont marqué. Donc l'exemple, oui, ben, typiquement sur Epidemic, c'est une exposition sur l'épidémiologie qui a eu lieu à la Cité des Sciences il y a 10 ans, 11 ans peut-être. Et à l'intérieur de cette exposition, tu as une exposition qui était plutôt plus ou moins classique, et tu avais un étage qui était consacré à une expérience numérique. Donc c'était aux alentours de 2008, donc on n'était pas du tout dans les mêmes schémas d'interaction avec nos écrans, nos smartphones, avec le numérique que ce qu'on a maintenant. On était déjà dans le mouvement, mais ça a tellement évolué en 10 ans que c'est pas la même chose. Et donc il y avait je sais pas combien de vidéoprojecteurs projetés au sol et au mur en vidéomapping, qui permettait de faire une expérience interactive où chaque personne qui rentrait dans cet espace-là avait un cercle qui se constituait autour de lui avec des points de vie, des boucliers, avec plein d'informations très ludiques dessus, un environnement de ville qui était déployé et une épidémie particulière qui se mettait en route parmi les 5 qu'il y avait. Et l'expérience était assez unique, qui était très bien. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de limitations de cette technologie qu'on connaît et qu'on a pallié. Mais c'est pas les problèmes techniques, moi, qui m'intéressent ici. C'est plus les problèmes de gameplay et de rapport au public. Les gens qui rentraient, le contenu était lourd sur de l'épidémie, avec plein de choses très intéressantes, mais qui parlaient aux adultes essentiellement. Les enfants n'avaient pas forcément encore les clés pour s'amuser avec ça. Puis en plus, ils avaient un univers autour d'eux tellement jeux vidéo qu'en fait, ils s'en foutaient un petit peu de l'histoire d'épidémie, ils avaient envie de jouer. Et donc du coup, il se créait une espèce de dichotomie entre les adultes qui trouvaient ça intéressant, mais qui étaient incapables d'utiliser le gameplay parce qu'ils étaient largués pour ce type de gameplay, c'est pas des joueurs de jeux vidéo, ils comprenaient pas comment ça fonctionnait. Et les enfants, enfin quand je dis enfants, c'est adolescents et jeunes adultes, qui étaient motivés par le jeu lui-même. Et donc du coup on commençait à jouer sans s'intéresser particulièrement à tous les messages qu'il y a derrière, parce que c'était trop lourd et un peu chiant par rapport à ça. Et ce grand écart qu'il y avait entre les deux, c'est dommage. Alors heureusement, il y a plein d'expériences où ça fonctionne, mais en tout cas c'était une très bonne expérience parce que c'était complètement innovant pour l'époque, et également une très bonne expérience parce que le retour d'expérience du truc nous dit que ça marchait pas, mais on sait pourquoi, et en effet c'était logique, mais encore une fois il faut s'y préparer pour ça, quoi. Dans les quelques expériences que je peux vous donner, il y en a trois que je peux essayer d'évoquer assez rapidement. Donc 2,5 sur lesquels moi j'ai que j'ai monté, donc du coup ça m'est plus facile même d'en parler, je me sens même plus légitime de le critiquer en fait. Il y en a un, c'était une expérience de réalité augmentée dans la Queen's House à Londres, qui permettait de pouvoir dans une salle qui était non utilisée, une salle immense architecturale, parler du bâtiment. C'est un ancien musée de la marine, de la peinture de la marine anglaise. Et le bâtiment a traversé l'univers entier et enfin, j'exagère évidemment, mais en tout cas, il a été une école, un pensionnat, un orphelinat, un atelier d'artistes, la maison de la reine, un abri lors de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a eu plein d'histoires autour de ce bâtiment-là et le musée n'en parlait pas. Et donc, on a développé une expérience qui permettait à l'utilisateur, quand il rentrait dans cette immense pièce centrale où il n'y avait rien, pas un tableau, rien, mais qui est architecturalement terrible, de pouvoir s'emparer d'un détecteur de fantômes et de pouvoir aller comme ça traquer chaque fantôme qui était à l'intérieur. Donc on avait reconstitué toutes les personnes en body scanning, en 3D, on les avait remis dans la pièce, etc. avec une technologie qui n'existe plus de nos jours, mais qui est une des meilleures de réalité augmentée que j'ai jamais vue, qui est Tango. Qui a été annulé par Google pour d'autres raisons purement commerciales dont je pourrais discuter. Mais en tout cas, j'ai pas vu aussi bon sur le marché que ça à l'époque. Et ça permettait de pouvoir avoir une vraie expérience à la Pokémon Go, qui est sortie un mois après qu'on ait sorti notre truc. Donc on était content et pas content à la fois, parce que Pokémon Go a une technologie qui est quand même très faible par rapport à ce qu'on utilisait, mais qui est une vraie expérience où en embarquant l'utilisateur dans une histoire qui était entre guillemets réelle, c'est-à-dire que les gardiens du lieu, pour eux, ils étaient entre autres en collaboration avec une compagnie qui leur a laissé un certain nombre de détecteurs de fantômes de manière à pouvoir prendre des données et de savoir, parce qu'en plus il y a une vraie histoire de fantômes autour de ce bâtiment-là qui est dans l'histoire anglaise et qui permettait de faire le lien pour les Anglais qui venaient et s'emparer d'un objet qui n'était pas un téléphone, pas une tablette, mais un détecteur de fantômes qui a été customisé avec tous les boutons, tout ce qu'il faut pour que ça ne ressemble plus à un téléphone. Mais évidemment, c'était un téléphone. Ça, c'était une expérience qui était très enrichissante et notamment sur le rapport public par rapport à une expérience qui est absolument unique au monde en termes de techno et en termes de spatialisation à cette époque-là, mais qui est pour un public qui est venu dans un musée de vieilles peintures de marine anglaise et de savoir comment ça fonctionne, et le lien et le gap qu'il y a entre le public et l'expérience était très enrichissante, et ça a apporté plein de choses, des choses qui marchaient moins bien, des choses qui marchaient très très bien, et notamment ça a pu apporter un souffle dans le trou béant qu'il y a dans tous les musées, qui est en gros les 20, 30 ans, on va dire, qui est vraiment la partie la plus difficile à toucher dans un musée, qui là permettait de toucher exactement ça, mais qui ne venait pas dans ce musée-là. Toute la difficulté était là, quoi. Un autre exemple que je vais donner, je vais essayer d'être moins loquace, qui est un des derniers trucs que j'ai monté avec mon équipe l'année dernière, qui s'appelle Exile to Home. Et ça rejoint un point que j'ai pas mentionné avant, qui me permet de le mentionner maintenant. Je disais, la technologie, on l'amène qu'à la fin. On se pose la question à la fin. De temps en temps, et j'ai fait un certain nombre d'expériences comme ça, qui sont plutôt plaisantes quand on a la chance d'avoir ce cadre, qui est, finalement, on va pas se poser la question de quelle techno va pouvoir répondre à notre public, on va faire l'inverse. On va prendre une technologie qui est une technologie un peu immergente, qui est pas complètement éprouvée, dirons-nous, et on va se demander comment on pourrait, avec cette technologie, faire quelque chose qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et qui donc nous amène sur des sentiers inconnus, avec tous les écueils qu'il y a et toutes les découvertes qu'il peut y avoir. Et on s'est intéressé à utiliser la réalité virtuelle de manière donc pédagogique et de manière collaborative, en réalité mixte. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une expérience numérique qu'on a mis en place où on voulait que les gens ne soient pas isolés dans la réalité virtuelle. Pas quelqu'un qui met un casque quelque part et toi, t'as aussi un casque, mais t'es à Tokyo, moi je suis à Paris, et ça fait pas de différence, sauf quand on enlève le casque, on peut pas trinquer ensemble. Là, il faut que les gens en réalité virtuelle puissent interagir entre eux, mais aussi que les gens qui ne sont pas en réalité virtuelle puissent interagir avec et continuer à faire toute l'expérience jusqu'au bout, de manière à ce qu'ils soient pas en train de regarder un écran, en train de se dire « bon, bah voilà ce que mon pote est en train de faire, il me tarde qu'il ait fini pour que je puisse tester ». Non, là, c'est une vraie interaction, asymétrique certes, mais une vraie interaction. Alors ça ressemble un peu au jeu Keep Talking and Nobody Explodes, qui est la désamorçage d'une bombe en réalité virtuelle pendant que les autres ne le sont pas. C'est-à-dire que c'est une communication réelle virtuelle qui existe, et on voulait voir comment on pouvait faire ça à plusieurs, le déployer, et surtout mettre un état d'une situation et une narration qui nous permettent de pouvoir prendre des joueurs au début, leur raconter une histoire, leur apporter des événements, des informations scientifiques et technologiques poussées sur certains domaines. On a de la génétique, de la physique des particules, ce genre de choses-là. Et en ressortir, en ayant une expérience qui était chouette, qui était ludique, et avec ce sentiment d'avoir appris quelque chose à la fin, même s'ils s'en sont pas rendus compte. Et le dernier point sur ce truc-là, et ça rejoindra après un exemple que je vous donnerai sur les bonnes choses à tester, c'est qu'on a voulu aussi mettre du réel dans le virtuel. C'est-à-dire dans un monde où tout est intangible, bah, autant mettre du tangible. Donc si tu vois quelque chose, c'est bien de pouvoir aller le toucher. Une table devient en fait un écran holographique sur lequel je peux aller taper sur la table, et en fait c'est des boutons, et comme une table tactile, à part que bon, bah, c'est une table normale. Si j'ai un objet par terre, je peux l'attraper et le passer à mon collègue qui est en réalité virtuelle, parce que je le sens avec mes mains. Le but, c'est vraiment de sentir vraiment un objet et de le déplacer, ce qui rejoint toutes les questions que, enfin en tout cas les points que je disais précédemment, qui est l'implication du mouvement et de l'interaction pour pouvoir réussir à fixer la connaissance plus facilement, quoi.
Sur cet exemple, juste pour apporter un peu plus de concret par rapport à, notamment à l'interaction entre l'équipe qui n'est pas en réalité virtuelle et puis la personne qui a le casque, tu m'avais parlé par exemple que bah, pour l'histoire du désamorçage de la bombe, la personne voit quelque chose, voit les fils qu'il doit couper. Et les personnes qui ne sont pas en réalité virtuelle ont un certain nombre d'informations, et donc ils ont chacun de leur côté des informations complémentaires qu'ils doivent se partager pour arriver à couper les bons fils, c'est ça ?
C'est exactement ça. L'idée, c'est que tout le cœur du gameplay est dans la communication, en fait. Le cœur même, c'est la communication, donc ça veut dire que l'information est totalement asymétrique. Il y a des choses à faire d'un côté et des choses à faire de l'autre, et que pour les faire, on est obligé d'avoir la connaissance de l'un et de l'autre, mais qu'on peut pas avoir sans communiquer. Et évidemment, pour que ça devienne un jeu, le gameplay est un peu... La communication n'est pas facilitée. On va faire exprès que il y a des choses qui se ressemblent, ou qu'on travaille sur des couleurs, des formes ou autres, de manière à ce que les gens soient obligés de vraiment communiquer pour pouvoir le faire, et sinon on n'y arriverait pas.
Ok, t'avais encore un exemple ?
Comme j'ai été très loquace, je vais juste les englober ensemble. Il y a des exemples. Là, j'ai parlé de technologie. Je veux juste rappeler qu'il y a plein de formes différentes. Donc, alors les escape rooms, je les ai mentionnés plein de fois, et je vais pas rentrer dedans parce qu'il y en a trop. Enfin, trop. Il n'y a pas trop, mais il y en a suffisamment pour que les gens soient plus au courant. C'est plus des formes de jeux de rôle grandeur nature. Il y a un certain nombre de possibilité où on oublie complètement la technologie, quoi. Donc, en gros, les deux exemples que j'ai donnés avant, il y en a un où la technologie était cachée, mais elle était présente, une où elle est clairement omniprésente. Là, je voudrais en parler d'une où il n'y a pas de techno, où ça veut dire que, par exemple, dans les lettres du conte, qui était un truc auquel j'ai participé activement il y a longtemps, quoi, il y a une dizaine d'années maintenant, un peu moins, c'était commandé par la mairie la possibilité de pouvoir reconstituer parler de la culture d'un petit château qu'il y avait. Donc évidemment, on a amené plein d'acteurs à l'intérieur, en costume, on a reconstitué ce qui s'était passé, une scène hypothétique évidemment, mais en tout cas, les mécaniques d'interaction culturelle, les niveaux sociaux, les grands noms étaient représentés, et montrés, lorsque le visiteur rentrait dedans, s'immerger dans cette espèce d'expérience un peu unique. Là où ça devient pour moi une expérience, une vraie expérience, et pas juste un spectacle avec des acteurs ou un cluedo où on va chercher l'enquêteur, c'est que les gens, lorsqu'ils arrivaient, on leur dit voilà, on les autorisait évidemment à prendre des photos parce que c'est un peu difficile d'eux, mais on leur demandait si possible de faire ça de manière discrète, pas à côté, donc de loin. On avait toujours des facilitateurs pour gérer ça, pour pas que ce soit trop intrusif. Mais en tout cas, on leur mettait une espèce de petite toche dessus, ils rentraient, donc ils se fondaient dans l'environnement, et ils pouvaient interagir avec tout le monde. Et notamment, il y avait évidemment des intrigues, des vraies histoires qui se déployaient avec des enquêtes, mais c'était pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est que tu pouvais juste venir prendre la température et être au milieu d'eux et discuter, ou juste passer, carrément te mêler à l'histoire qui se déployait, de manière à pouvoir être un élément qui va pouvoir faire basculer une partie de l'histoire dans une autre phase, parce que t'as retrouvé le collier perdu de la reine, ou peu importe. Et c'était... Moi, j'aime ce genre de truc, parce que c'est proche du théâtre, c'est proche de tout ce que fait Punch Drunk ou le cinéma immersif qui est fait à Londres aussi, je sais plus le nom, mais qui sont des expériences théâtrales où tu peux passer d'une scène à l'autre et être trimballé, où on te met un peu à sollicitation. Mais plus que ça, là, on était carrément dans tu fais partie de l'histoire. Et à partir du moment où, à la fin de ton expérience, tu peux dire, alors je parle de toutes les expériences confondues, pas spécifiquement celle-là, tu as l'impression d'avoir été le héros de l'histoire, ou en tout cas l'acteur de principal de ton histoire, bon, bah dans ce cas-là, c'est gagné. Ça veut dire que chacun a eu une expérience collective, mais tout le monde a eu une individualité qui fait qu'il se sent unique, et qui, s'il n'était pas là, les choses auraient été autrement.
Ok. Tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, je voulais vous donner un exemple du coup de jeu qu'on peut. Tu m'avais demandé quel type de jeu on pouvait, quel type d'expérience on pourrait aller faire. Expérience immersive, donc il y en a de tout type. Pédagogique, c'est dur. J'en connais immersive et pédagogique. J'en connais peu, et notamment une des choses qu'on peut aller vers lesquelles se tourner, c'est la Mostra de Venise, qui a lieu là, à partir de lundi prochain, vu que les dates seront certainement pas les mêmes, donc la première semaine de septembre, qui jusqu'à présent, donc la Mostra, c'est un peu l'équivalent à Venise des Césars, des Oscars, etc., mais pour le cinéma, classique, entre guillemets, jusqu'à présent, mais il y a un secteur qui s'est ouvert, il n'y a pas très longtemps, qui est le secteur de la réalité virtuelle. Et comment primer des expériences de réalité virtuelle à l'intérieur de cela. Et là-dedans, évidemment, il y a de la narration pure, de la fiction, mais il y a aussi énormément de documentaires, de reportages, et dont certains sont clairement interactifs, qui sont un peu primés un peu partout maintenant dans les festivals dans le monde entier. Et si vous voulez regarder une programmation qui est intéressante, allez regarder Salam, paraît judicieuse. Mmh. Un autre, par contre, qui est une expérience qui est unique pour moi au monde et qui se rapproche de choses que, enfin plutôt nous qui nous sommes rapprochés de choses qu'ils faisaient pour Exile to Home, l'expérience en réalité mixte dont je parlais avant. Celle-là, c'est The Void. The Void, c'est pour moi les plus avancés à l'heure actuelle. Alors il y a eu plein de termes, on appelle ça réalité mixte maintenant parce que c'est un mot valise pour un peu tout mettre. Il y a eu hyper réalité, virtualité augmentée, enfin peu importe. En gros, c'est tu mets un casque de réalité virtuelle, t'es en interaction avec des gens autour de toi et tu peux venir toucher l'environnement, prendre s'il pleut un peu d'eau sur le visage, prendre des coups de vent s'il y a avec un ventilo, mais mêler le monde virtuel au monde réel dans une expérience absolument unique.
Super intéressant. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux gens qui souhaitent se lancer dans la création ou l'utilisation de jeux immersifs?
Ils peuvent me contacter. Ce sera avec conseil. Plaisir. Non, mais je veux dire que j'aide avec plaisir si j'ai le temps. Je suis toujours ravi de voir des choses qui se font, donc si je peux. Et je n'ai que mon expérience personnelle. Hein, je suis pas plus que ce que j'ai vécu, mais c'est plus des retours d'expérience que je peux faire. Et notamment il y a trois écueils. T'as un, jamais oublier le public. Je sais bien qu'on se dit bah oui c'est quand même le point qu'on ne doit pas oublier. Alors en réalité des tonnes de fois, c'est essentiellement on se concentre à pourquoi on a envie que le public fasse ça et on se dit tiens ça devrait leur plaire plutôt que de se dire ok moi public qu'est-ce qui m'engage lorsque je suis là à aller jusqu'au bout de cette expérience ou à venir sur cette expérience, qu'est-ce qui moi va me plaire pour et pas qu'est-ce que le créateur pense que je vais aimer. Et donc ça se fait avec des tests, hein. Il faut pas hésiter à faire des tests à plein d'étapes et notre première intuition est pas toujours la bonne, et surtout faire des tests dans un public qui parfois, alors si on est le même public que celui qu'on cible, ok c'est beaucoup plus simple, mais quand c'est pas le cas, il faut faire ça quand même. J'ai dit trois, le deuxième c'est la technologie. Bien choisir sa techno si on veut mettre de la techno, et même si c'est pas de la techno numérique, de la fabrication de décors, de la vidéoprojection, alors ça c'est numérique, mais enfin de la vidéoprojection contre un mur, il y a plein de choses qui sont qui demandent de l'expertise et du temps, et il y a plein de petits détails qui dès que tu les connais, ok c'est acquis, c'est pas des choses compliquées, mais qu'il faut connaître parce que sinon on se prend un mur au départ, c'est corrigible, mais quand on doit le corriger beaucoup trop tard, ça devient compliqué. Typiquement, avec des HoloLens, outre toutes les problèmes techniques de l'appareil lui-même, c'est de la réalité augmentée qui est pas pareil que sur écran, parce que c'est un écran transparent, donc tu peux pas faire de noir. Donc, ça veut dire que tu vois tout par transparence, et tout tes noirs deviennent de la transparence, et donc tu ne peux pas faire d'occultation, etc. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Et encore une fois, c'est des choses évidentes, mais faut vraiment avoir un expert quelque part qui a déjà bossé avec pour selon votre projet, pas se prendre un mur. Si c'est un client, si c'est un développement perso, c'est vraiment pas grave. Et le dernier, c'est pas hésiter à faire simple. On a souvent envie d'en mettre trop. Déjà, ça se sent quand on le pitch. Il faut que ça soit assez rapide. Et en plus, au niveau du contenu, absolument, je réinsiste dessus, avoir un message simple et très clair, et qui est surtout une ligne directrice de tout ce que vous allez développer, parce qu'on a toujours envie, quand on travaille avec des experts du sujet, donc que ce soit des historiens, des chercheurs, des profs, des geeks, peu importe le sujet, de rajouter des détails, de venir chipoter sur un truc ou autre. Et il faut que le contenu soit juste, absolument, parce que à partir du moment où on amène dans une expérience qui est fausse, puisque c'est pas notre réel, il faut savoir exactement la partie qui est le contenu et la partie qui est fictive. Donc typiquement, quand je parlais de zombies, d'extraterrestres et de zombies ensemble, la plupart des gens vont se dire c'est fictif, et donc du coup la partie réelle, il faut qu'elle soit bien détachée, mêlée, mais qu'on arrive à faire la distinction entre les deux. La grosse difficulté, c'est lorsqu'on fait de la science-fiction par exemple. Si on veut parler de physique avec de la science-fiction, c'est vu qu'on rajoute de la science qui n'existe pas, où est la limite de la réalité et de la limite du faux. Donc faire simple et avoir un message clair avec un contenu qui sera décorticable après ou qui est clairement explicité pendant.
Alors avant de clôturer cet échange, y a-t-il un sujet que nous n'avons pas abordé et que tu souhaites et dont tu souhaites parler ?
Il y a un point que je me suis noté qu'il faut que je... C'est histoire de donner un bémol à tout ce que j'ai raconté. Mon retour d'expérience de ce que j'ai raconté là, c'est tout ce qui est face à du public, quel qu'il soit. Donc ça peut être un joueur chez lui, ou je disais un muséo, ou une grande expérience au milieu d'une ville ou sur le territoire national ou peu importe. Mais c'est face avec des gens qui viennent jouer à ça. Et donc du coup, comme c'est avec du contenu, tu veux transmettre quelque chose de très particulier qui est commandité soit par toi, soit par quelqu'un d'autre, et faut pas se louper là-dessus. Mais tout est remis en perspective à partir du moment où ton contenu est un geste artistique d'un artiste. Si toi, tu as envie de faire une œuvre d'art, alors je vous dis œuvre d'art au sens large, ça peut être de la danse interactive numérique immersive, ça peut être du sound design spatialisé, du vidéo mapping, peu importe, à partir du moment où c'est quelque chose qui est un geste artistique, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est plus une transmission de connaissances à un public précis, c'est une transmission d'une création artistique au public qui voudra bien le recevoir. Et donc du coup, à ce moment-là, à peu près tout ce que j'ai dit se casse la gueule, puisque je peux plus rien dire. Je vais donner un exemple simple. Si y a deux symboles qui sont contre un mur de couleurs différentes, ben moi je vais avoir un souci en disant attention, on connaît pas tout notre public, il va falloir faire en sorte que ces couleurs-là, elles soient très distinguables pour des daltoniens et les différents types de daltonisme, et qu'on soit sûr qu'on puisse les voir. Si c'est un geste artistique, je peux pas te dire, bah non, tu vas pas mettre du bleu. Tu vas mettre du bleu peut-être parce que toi, juste t'as envie de mettre du bleu et que ça fait partie de ton univers et que c'est ce que t'as envie de venir apporter. Mais c'est différent d'un graphiste qui bosse sur un projet qui est pour du public et quelqu'un qui est un artiste qui fait sa propre œuvre. Voilà, c'était juste pour tempérer là-dessus.
Ok, merci. Alors, j'ai l'habitude de poser deux questions à la fin. Alors la première, c'est s'il y a un jeu qui t'a particulièrement plu et que tu souhaites nous recommander, quel est-il ?
Je l'ai déjà fait en fait. C'était The Void.
C'était la partie The Void et puis.
The Void indéniablement. Il y a un jeu que je peux conseiller qui est pour ceux qui sont au nord de Paris. Il n'est pas donné, mais l'expérience est assez unique. Donc autant y aller tant que ça existe, qui mêle une partie grandeur nature avec des acteurs un peu à la Manoir de Paris, on va dire, une partie escape room et une partie réalité virtuelle, et les trois dans une grande expérience. Donc ça s'appelle Geekopolis Experience. Et donc moi j'ai testé que la bêta, j'ai pas testé la nouvelle version dont on m'a dit beaucoup de bien, et la bêta était vraiment prometteuse. Donc pour ceux qui sont dans le coin, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil.
Ok, intéressant. Et du coup, ma seconde question, c'est connais-tu une personne qui utilise le jeu dans son activité professionnelle et dont tu aimerais entendre le témoignage dans un prochain épisode ?
Il n'y a personne qui m'est venu à l'esprit immédiatement, je me suis posé la question et je ne sais pas répondre à ça. Parce qu'il y a plein de gens et il faut que je fasse un choix et je saurais pas dire. Et le seul qui sort du lot pour moi, vraiment, mais qui n'est pas que du jeu. Enfin, d'ailleurs, je sais même. C'est plus des expériences qui est proche d'expériences immersives justement à large nombre, qui est mais je me rappelle plus du nom. J'étais en train de chercher en même temps pour voir. J'ai Ron Perlin en tête, mais c'est pas Ron Perlin. Du coup, parce que je le trouve pas sur ça, je peux te le renvoyer plus tard, mais pour le podcast, malheureusement, je ne sais pas. Mais par contre, il est anglophone. Hein. Je sais pas
ça permettra d'aller voir pour les gens que ça intéresse. Je le mettrai dans les commentaires de l'épisode. D'ici là, on retrouvera le nom.
Je te le retrouverai, je te le donnerai parce qu'il fait vraiment des expériences qui sont de fou, et là il va faire des choses à large spectre, c'est-à-dire qu'il fait des expériences interactives à 30 personnes avec un casque de réalité virtuelle dans une même pièce par exemple, en déplacement, ce genre de choses là, donc c'est assez unique.
Ok, chouette, bon on a hâte.
Moi aussi j'ai un peu embêté parce que... pas son nom. Mais
c'est pas grave. Est-ce que... alors, si on souhaite en savoir un peu plus sur toi, sur ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Le mieux, c'est d'aller sur mon site web, qui est jouvenot.net. Et il y a un certain nombre de travaux. En gros, les travaux principaux que j'ai faits sont dessus. Et s'il y a besoin, on peut me contacter par ça ou me contacter directement. Ce sera toujours avec plaisir.
Super. Bah, merci beaucoup, Fabrice Jouvenot.
Merci beaucoup pour cette occasion. Une bonne continuation.
Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.